Vous écoutez, on lit pour vous.
Troubles d'accumulation compulsive, encombrement physique et mental. Un texte de Catherine Anfield, paru le 29 juin 2025 dans La Presse. La presse est entrée dans les logements et les quotidiens de deux personnes qui accumulent des objets de façon excessive et qui veulent s'en sortir. Lorsque Suzanne P. a emménagé dans son appartement au début des années 1990, elle en était fière. C'était le plus beau du bloc, se souvient-elle. À l'époque, Suzanne avait un emploi et elle s'occupait bien de son chez-soi. Elle le précise d'emblée, elle vient d'une bonne famille, honnête, travaillante, et elle a fait des études post-secondaires. Les problèmes d'accumulation compulsive, ça ne touche pas juste les gens pauvres ou les gens atteints d'un trouble de santé mentale les rendant inconscients de leur situation. Ça englobe tout le monde, résume Suzanne. Les riches comme les pauvres, les propriétaires comme les locataires, dit-elle. On dit souvent qu'il suffit de quelques coups durs pour perdre pied. C'est ce qui est arrivé à Suzanne. Tout s'est joué coup sur coup il y a une quinzaine d'années, à la mi-quarantaine. Un épuisement professionnel, l'infidélité de l'homme qu'elle aimait, une agression, puis une relation marquée par la violence. Suzanne s'est retrouvée prestataire de l'aide sociale. Dans la foulée de ses traumatismes, elle a commencé à espacer les jours de ménage et à accumuler du matériel. Au début, c'était léger, dit-elle. Une pile de papier sur un bureau, des vêtements éparpillés. Puis, les objets se sont accumulés. Pas des trucs trouvés dans la rue, précise Suzanne. Des cadeaux qu'elle se ferait pour embellir son quotidien. Le premier du mois, j'allais au Dollarama. Ça faisait du bien à l'estime et ça me donnait du pouvoir. Moi aussi. J'étais capable de m'acheter des affaires, résume la sexagénaire, rencontrée chez elle dans le nord de Montréal. Au salon, son chien dort à ses pieds, à côté d'un grand sofa entièrement recouvert d'objets. Au coin, une cage de souris trône sur une pile d'objets. Derrière, une grande bibliothèque, bien garnie elle aussi. Ici, mon kit de chandelles et encens. Ici, les jeux, là, la couture et les bibelots, énumère-t-elle. Même sur le sofa, Suzanne a un système. La section animaux, la section peinture, la section CD de méditation. Au sol, une pile d'agendas, dont quatre de 2023-2024. Elle regrette d'en avoir acheté autant, mais préfère les garder pour griffonner. Au moins, les arbres ne seront pas morts pour rien, philosophe-t-elle. Et j'y travaille à régler cette dysfonction d'achat compulsif, dit-elle. Suzanne a suivi deux ateliers auprès d'organismes en santé mentale pour comprendre la source de ses difficultés et apprendre à les surmonter. Selon elle, 85% du chemin est parcouru, bien que le commun des mortels se sentirait à l'étroit dans son espace de vie. Les choses sont désormais classées et le corridor dégagé. Ici, c'est ma sécurité, dit celle qui craint de devoir déménager dans un minuscule appartement où les animaux sont interdits. Elle jette un œil à son chien, qui roupille toujours à ses pieds. Suzanne se demande d'ailleurs si les démarches de ses propriétaires ne sont pas un prétexte pour l'expulser, car elle paie la moitié du prix courant pour son 4,5. Tac et Diogène. À la maison Scorpion, les mois qui précèdent le 1er juillet sont rock'n'roll, convient le propriétaire Stéphane Felto. Jadis technicien en gestion parasitaire, Stéphane Felto a ouvert la maison Scorpion pour répondre à un besoin. Le désencombrement et le grand nettoyage des logements, qu'il y ait ou non présence d'insectes. Plusieurs de mes clients font face à des évictions, parce que les propriétaires ont ouvert un dossier au tribunal administratif du logement, TAL. D'autres fois, ce sont les services d'incendie, de police ou d'ambulance qui ont essayé d'intervenir et qui ont constaté que le logement ne correspond pas aux normes dit-il. Les sorties de secours sont obstruées. Les corridors sont trop étroits pour y circuler. Le dessus de la cuisinière est encombré, etc. Le TAL a rendu des dizaines et des dizaines de décisions contenant les termes « syndrome de Diogène » ou « trouble d'accumulation compulsive », parfois favorable aux locataires, parfois favorable aux propriétaires. En vertu du Code civil, les locataires ont l'obligation d'user de leur logement avec prudence et diligence et de maintenir celui-ci en bon état de propreté. Le syndrome de Diogène se caractérise par une grande négligence de son environnement, souvent accompagnée d'accumulation de déchets ou d'objets. Le TAC, pour sa part, est un trouble de santé mentale reconnu depuis 2013 par le DSM-5, la Bible en santé mentale. Il implique la présence d'un certain discours derrière le fait de garder les objets ou les déchets. Cela pourrait être utilisé ou recyclé. Je pourrais en avoir besoin un jour. Ainsi que d'une détresse associée au fait de s'en départir. Entre 2% et 6% de la population est atteinte du TAC, selon les études. 60 sacs poubelles. Ève, 25 ans, habite depuis l'enfance dans une coopérative d'habitation de Montréal. Depuis la mort de sa mère, elle vit seule dans son 4,5. Elle aimerait déménager dans un appartement plus petit et moins cher, dans la même coop, mais elle sait pertinemment que, pour en faire la demande, elle doit reprendre le contrôle sur son environnement. Ève est suivie par divers intervenants en santé mentale. Elle souffre d'un trouble bipolaire, d'agoraphobie et du syndrome de stress post-traumatique. Nous l'avons rencontrée chez elle, dans l'ouest de Montréal, alors que l'équipe de la maison Scorpion était à l'œuvre. Stéphane Felto nettoyait le fond des armoires de cuisine. Un employé s'apprêtait à nettoyer les murs. 20 ans de nicotine, précise Ève, alors qu'un troisième s'activait dans les chambres. Ève a pu s'offrir leur service grâce à un héritage. Lors de notre passage, la jeune femme était nerveuse. Dans la cour arrière de la coop, la petite brunette fumait une cigarette en sirotant une boisson énergisante. « J'ai été rendue à bout », a-t-elle confié. « Au lieu de fuir, j'ai décidé d'affronter la situation comme une adulte responsable. » Honteuse de son logement, Ève s'isole beaucoup. L'année dernière, elle a fait elle-même un grand ménage, mais n'a pas vraiment retouché à son appartement depuis. Les déchets se sont accumulés. L'équipe de la maison Scorpion a sorti 60 sacs poubelles. La mère d'Ève travaillait dans un site de récupération et rapportait des objets à la maison. Ève se souvient des piles de journaux qui montaient jusqu'au plafond. Après son décès, avec 5 voisins, on a travaillé 16 heures dans une fin de semaine pour tout vider, se souvient-elle. Ève ressent de l'anxiété lorsqu'elle sort les ordures et un certain confort dans un milieu surchargé. L'encombrement lui permet aussi de cacher des souvenirs douloureux dans cet appartement où elle a grandi, dit-elle. « Je laissais ça de même parce que je ne voulais pas avoir de flashback », résume la femme, qui dit avoir été victime de violences de son père. Le fait de retrouver son espace la soulage néanmoins. Elle pourra enfin installer son lave-vaisselle. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a récemment invité des amis chez elle. Plusieurs recours possibles. Selon la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, CORPIC, les propriétaires font partie des partenaires pour rechercher des solutions dans les situations de troubles d'accumulation compulsive. Elle sensibilise d'ailleurs ses membres à ce sujet. Plusieurs recours sont envisageables, indique la CORPIC. D'abord, dialoguer avec le locataire et l'accompagner dans la mesure du possible. Visiter les lieux en présence d'un témoin et prendre des photos. Discuter avec les proches du locataire et, dans des cas plus urgents, contacter le service de sécurité incendie pour envoyer un inspecteur. Ce problème peut entraîner plusieurs répercussions pour le logement, l'immeuble et les occupants, souligne la CORPIC. Insalubrité, l'accumulation rend l'entretien difficile, bloque l'aération, attire les insectes nuisibles et favorise l'humidité et les moisissures. Risque de sécurité, incendie et tensions entre voisins. C'était « Troubles d'accumulation compulsive, encombrement physique et mental », un texte de Catherine Anfield paru le 29 juin 2025 dans la presse. Troubles d'accumulation compulsive, mieux comprendre le TAC, un texte de Catherine Anfield paru le 29 juin 2025 dans la presse. Le trouble d'accumulation compulsive est un trouble de santé mentale aux multiples facettes. La psychologue Catherine Ouellette-Courtois nous parle des symptômes et de la façon d'en sortir. TAC contre TOC. Le trouble d'accumulation compulsive, TAC, est dans la même famille qu'un autre trouble de santé mentale bien connu, le trouble obsessionnel compulsif, TOC. Ces deux troubles sont effectivement apparentés, explique Catherine Ouellette-Courtois, psychologue spécialisée dans les troubles du spectre obsessionnel compulsif au Centre universitaire de santé McGill. Les deux éléments principaux d'un TOC, ce sont les obsessions, une peur, et les compulsions, pour repousser la peur. J'ai peur d'attraper une maladie, alors je me lave compulsivement les mains, donne-t-elle en exemple. Avec le TAC, à l'inverse, l'obsession est plutôt quelque chose que l'on désire, et la compulsion serait d'accumuler des objets ou d'éviter de s'en départir. Un spectre. Certaines personnes vivent dans des milieux très encombrés et parfois insalubres, mais ce n'est pas tout le monde qui va montrer ce niveau de sévérité, souligne Catherine Ouellette-Courtois. Propriétaire de la maison Scorpion, une entreprise spécialisée en désencombrement, Stéphane Felteau intervient parfois dans des milieux à la fois encombrés et très propres. À un point tel que je mangerai sans problème sur le plancher, dit-il. Dans certains cas, les espaces communs dans la maison ne sont pas utilisables tant ils sont encombrés, mais dans d'autres cas, ils le sont. Ça devient un trouble quand ça crée une détresse significative ou que ça interfère de façon significative dans le fonctionnement de la personne, dit Catherine Ouellette-Courtois. Identité. Beaucoup de gens, dans la population générale, auraient de la difficulté à se départir de certains objets. Mais dans le TAC, cette tendance prend beaucoup de place, explique la psychologue. Certaines personnes auront un attachement très fort envers des objets qu'ils perçoivent comme l'extension d'une personne, leurs enfants par exemple. Pour d'autres, les objets accumulés ont une valeur identitaire, note Catherine Ouellette-Courtois. Les gens qui s'identifient comme écolos peuvent accumuler des choses qu'ils ne veulent surtout pas jeter. Les bons parents, tous les dessins et bricolages de leurs enfants. Les gens à leur affaire, toutes les factures. Les gens au courant, les journaux. Les gens originaux, tel ou tel type de vêtements. Attachement. Il existe assez peu de recherches sur le profil de développement des gens ayant un TAC. Mais souvent, constate la psychologue Catherine Ouellette-Courtois, des difficultés en matière d'attachement ou des expériences traumatiques semblent nourrir le problème. S'il y a un très fort attachement émotionnel envers les objets, c'est peut-être parce que des liens d'attachement ont été difficiles à créer avec des humains, comme les parents ou les figures de sécurité, résume-t-elle. D'autres facteurs peuvent jouer, comme le fait d'avoir été élevé par des parents eux-mêmes atteints d'un TAC. Traitement. La thérapie cognitivo-comportementale demeure le traitement de choix pour le TAC. Le thérapeute aide la personne à se débarrasser des objets graduellement, du niveau le moins anxiogène au plus anxiogène, explique Catherine Ouellette-Courtois, qui compare cela à un rituel d'au revoir. Si le tac est sévère et que la cuisine et les corridors sont encombrés, ces zones seront priorisées afin que la démarche ait du sens pour la personne. Les psychologues utilisent aussi une approche basée sur les inférences qui vise à montrer aux patients que les scénarios imaginaires qu'ils se font ne sont pas ancrés dans la réalité. Concrètement, à quoi sert cet objet, ici et maintenant? Si la personne est capable de constater qu'en ce moment, il fait juste prendre de l'espace, c'est là qu'on l'invite à s'en débarrasser, résume la psychologue. C'était « Trouble d'accumulation compulsive, mieux comprendre le TAC », un texte de Catherine Anfield paru le 29 juin 2025 dans La Presse.
L'OMS suggère d'augmenter de 50 % les taxes sur le tabac, l'alcool et le sucre pour sauver des vies. Un texte de l'AFP paru le 2 juillet 2025 dans TVA Nouvelles. Deux choses sont certaines, la mort et les impôts. L'Organisation mondiale de la santé, peut-être inspirée par ce trait d'esprit attribué à Benjamin Franklin, propose d'utiliser massivement les uns pour retarder l'autre. L'OMS a lancé mardi une nouvelle initiative encourageant ses États membres à augmenter les prix réels du tabac, de l'alcool et des boissons sucrées d'au moins 50 % d'ici 2035. Le but, réduire les maladies chroniques et générer des revenus essentiels pour les caisses publiques, souligne un communiqué publié à l'occasion de la conférence de Séville sur le financement du développement. Surnommé 3 d'ici 35, cette initiative, citation, survient à un moment où les systèmes de santé sont sous une pression énorme en raison de l'augmentation du nombre de patients atteints de maladies non transmissibles, MNT, de la diminution de l'aide au développement et de l'accroissement de la dette publique, fin de citation, souligne l'organisation onusienne. De fait, taxer ce genre de produit a fait la preuve de son efficacité pour en faire baisser la consommation. Michael Bloomberg, le milliardaire, maire de New York dans les années 2000 et un féroce opposant au tabagisme, a fortement taxé les cigarettes avec succès. Citation : Les taxes sur la santé sont l'un des outils les plus efficaces que nous ayons. Fin de citation, rappelle le docteur Jérémy Farrar, responsable à l'OMS de la promotion de la santé, de la prévention et du contrôle des maladies. Citation : Elles réduisent la consommation de produits nocifs et génèrent des revenus que les gouvernements peuvent réinvestir dans les soins de santé, l'éducation et la protection sociale. Il est temps d'agir. Fin de citation, insiste-t-il. La consommation de tabac, d'alcool et de boissons sucrées alimente l'épidémie de maladies non transmissibles, souligne l'OMS. Selon les statistiques de l'organisation, les MNT, qui comprennent les maladies cardiaques, le cancer et le diabète, représentent plus de 75 % de tous les décès dans le monde. Selon l'OMS, citation, une augmentation unique de 50 % des prix de ces produits pourrait prévenir 50 millions de décès prématurés au cours des 50 prochaines années. Fin de citation. L'organisation se fixe même un objectif ambitieux mais réalisable. Récolter 1 000 milliards de dollars US au cours des 10 prochaines années. Citation : Entre 2012 et 2022, près de 140 pays ont augmenté les taxes sur le tabac, ce qui a entraîné une augmentation des prix réels de plus de 50 % en moyenne, montrant que des changements à grande échelle sont possibles. Fin de citation, souligne encore l'OMS. C'était L'OMS suggère d'augmenter de 50 % les taxes sur le tabac, l'alcool et le sucre pour sauver des vies. Un texte de l'AFP paru le 2 juillet 2025 dans TVA Nouvelles.
Plus de 100 millions de dollars en projets pour logement Han dans l'Est. Un texte de Cédric Bérubé paru le 2 juillet 2025 sur le site de Radio-Canada. Le spécialiste des appartements adaptés, Logement Han, constate d'importants besoins en la matière dans l'Est du Québec. Il a pour plus de 100 millions de dollars en projet au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, ce qui représentera à terme 338 nouveaux logements adaptés. Or, à Matane, plusieurs nouveaux logements n'ont pas encore trouvé preneur. Au lendemain de la journée traditionnelle du déménagement, la présidente et chef de la direction de Logement Han, Annick Roy-Trudel, affirme que les personnes vulnérables sont souvent peu considérées en cette période de crise du logement. Vous savez, on est le 2 juillet. Il manque beaucoup de logements abordables et sociaux. Peut-être que les gens ne le réalisent pas, mais la crise du logement, ça touche trois fois plus les personnes handicapées, soulève-t-elle. C'est trois fois plus dur pour eux de se trouver un logement qui convient à leurs besoins et à leurs moyens. Quand on parle du logement adapté et abordable, 400 000 logements seraient requis pour répondre aux besoins actuels. Une citation d'Annick Roy-Trudel, présidente et chef de la direction de Logement Han. Ces données proviennent en partie de la Société d'habitation du Québec et de l'Office des personnes handicapées du Québec, explique Mme Trudel. Au Québec, c'est 21% des familles qui ont quelqu'un qui vit avec un handicap dans la cellule familiale. Quand on parle de logements sociaux, c'est moins de 1% des logements qu'ils sont. Il n'y a pas beaucoup de logements abordables, puis il y a encore moins de logements abordables qui sont adaptés pour des personnes qui vivent avec un handicap ou, encore une fois, qui ont une certaine dégénérescence physique, relate Annick Roy-Trudel. Logement Han construit des logements pour des personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme. L'organisme, but non lucratif, offre également un toit aux personnes âgées en besoin d'adaptation. Répondre aux besoins. D'ici 2030, Logement Han veut ajouter 1500 logements au marché immobilier de la province. Dans l'Est du Québec, l'objectif est de dépasser les 350 logements. Je pourrais en faire 4000 dans la région et je suis certaine que je les remplirai à 100%. Une citation d'Annick Roy-Trudel, présidente et chef de la direction de Logement Han. À compter du 1er août, un bloc d'appartements de 32 logements sera habitable à Matane. 20 logements y sont encore disponibles. Pour exposer la proposition qu'offre Logement Han en logement adapté, des portes ouvertes étaient organisées à Matane mercredi. Lynn Ross, une citoyenne de Matane, profite de ces portes ouvertes pour faire visiter virtuellement les lieux à son frère Gilles, qui vit pour le moment dans une résidence pour personnes âgées à Amqui. Gilles Ross, qui a une jambe amputée, se réjouit de cette offre d'appartements adaptés. « C'est bien, c'est en haut de mes espérances. Moi, je suis en fauteuil roulant, mais éventuellement, j'aurai une prothèse. » Pour une personne qui a une prothèse, je n'ai rien à dire. Actuellement, je suis dans un appartement à Amqui. En matière d'endroit pour une personne qui vit ici, c'est un 5 étoiles. La seule chose est que je me sens isolé de toute ma famille, explique Gilles Ross. On va pouvoir le rapatrier à Matane, ajoute sa sœur. Une future locataire, Marie-Paul Ross, apprécie elle aussi sa visite. C'est correct, c'est beau et neuf. La salle de bain est bien faite, c'est merveilleux. Pas d'escalier, c'est déjà bien. J'ai de la misère à monter les escaliers. Le fait que 20 logements soient encore disponibles est très rare, selon Annick Roy-Trudel. C'est sûr, quand on s'implante dans une nouvelle ville comme Matane, on est moins connu. Ça me prend 3 à 5 mois pour nous faire connaître et ensuite, j'ai toujours des listes d'attente de 10 à 100 personnes. Nos locataires restent très longtemps dans les logements. C'est certain qu'il n'y a pas beaucoup de disponibilité dans les logements existants. C'est avec les nouveaux logements que je peux offrir un loyer à ces gens en attente. C'est pour ça qu'on fait souvent des phases 2. Une citation d'Annick Roy-Trudel, présidente et chef de la direction de Logement Han. Logement Han s'est implanté ou dit avoir des ententes pour s'implanter dans 8 villes de l'Est du Québec, soit Rivière-du-Loup, Rimouski, Mont-Joli, Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé, Chandler et New Richmond. D'après un reportage de Jean-François Deschênes, c'était plus de 100 millions de dollars en projets pour Logement Han dans l'Est, un texte de Cédric Bérubé, paru le 2 juillet 2025 sur le site de Radio-Canada.
Un bilan favorisant l'épanouissement des personnes handicapées, un texte de Mathieu Fournier, paru le 30 juin 2025 dans Beauce Média. L'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches, ARLPH-CA, dresse un bilan positif de la deuxième édition du festival « Un talent pas si différent ». L'événement s'est déroulé de la mi-mars jusqu'à la fin mai, un peu partout à travers la région. 4 expositions printanières ont été présentées dans 4 lieux culturels des villes de Montmagny, Thetford Mines, Saint-Georges et Lévis. La première édition du cabaret-spectacle s'est tenue le 25 mai à la salle L'Entrecours du cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges. Avec ce festival, l'ARLPH-CA a démontré que la culture est un levier important d'épanouissement. Citation : Quand une personne a l'occasion de créer, de s'exprimer, de partager son monde intérieur, ça change tout. Et c'est exactement ce que nous avons offert aux personnes en situation de handicap de tout Chaudière-Appalaches. Le plaisir de se réaliser, nous avons pu le lire sur les visages des artistes par les sourires, les acclamations, le bonheur. Fin de citation, mentionne l'organisation dans son communiqué de presse. La réussite du festival repose sur la participation de 11 organismes de la région offrant des services pour les personnes handicapées. Ils ont accompagné au-delà de 120 artistes pour la réalisation de 4 expositions culturelles et de 25 artistes qui sont montés sur scène lors du cabaret-spectacle. Le festival « Un talent pas si différent » sera de retour de la mi-mars à la fin mai en 2027. C'était un bilan favorisant l'épanouissement des personnes handicapées, un texte de Mathieu Fournier, paru le 30 juin 2025 dans Beauce Média.